VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 17h30 à Lomé, 18h30 à Cotonou, bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Au sommaire ce soir, manifestation à Cotonou contre les réformes du président Talon. Tentative d'apaisement au Togo, Ahmed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense, se rend à Lomé. Le procès de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien, a été encore une fois reporté. Et puis au Kenya, 6 jours de la présidentielle, le directeur exécutif de la commission électorale prend un congé de 3 semaines. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, des milliers de Béninois sont descendus dans les rues à Cotonou à l'appel des organisations syndicales pour protester contre les réformes du président Patrice Talon et la vie chère. Le point avec Solange Niamoulissa.
La marche qui s'est terminée en fin de matinée devant la Bourse du Travail a rassemblé plus de 10 000 manifestants. Nanini Kassam-Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, dénonce la vie chère alors que les salaires ne sont pas augmentés et les travailleurs payent plus d'impôts. Le pouvoir est confronté à une grogne sociale croissante dans le secteur public, frappé par plusieurs mouvements de grève. Les salariés dénoncent la mise en place par le président Talon des privatisations et des coupes budgétaires. Les travailleurs de la santé ont multiplié les débrayages ces derniers mois, paralysant les hôpitaux à plusieurs reprises. Les tribunaux et greffes ont aussi observé 2 jours de cessation du travail pour réclamer de meilleures conditions dans les secteurs de la justice. Patrice Talon a engagé des réformes pour faire face au ralentissement de l'économie, conséquence de la récession au Nigeria voisin. Son orientation libérale suscite de vives critiques et inquiétudes au sein de la population.
Au Togo, la mobilisation ne semble pas faiblir pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé et une réforme constitutionnelle, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels. Des détails sur cette crise avec Anastasie Tudièche.
Selon un représentant de l'opposition, depuis hier jeudi, les militaires tirent à balles réelles et mènent des expéditions punitives dans les maisons. Selon Amnesty International, des miliciens sont déployés jusqu'à Lomé, la capitale, pour conduire des bastonnades. Des allégations démenties par le gouvernement. Mercredi, le président béninois Patrice Talon s'est rendu à Lomé pour la 2e fois pour s'entretenir avec son homologue togolais. Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien de la Défense, s'est lui aussi rendu à Lomé. L'opposant Tipki Achadam a demandé au président français Emmanuel Macron d'intervenir. Le gouvernement togolais a proposé un projet de réforme constitutionnelle par référendum, un texte que l'opposition rejette en bloc, arguant qu'il n'est pas rétroactif et permettrait à M. Gnassingbé de se représenter plusieurs fois.
Le Tchad a demandé l'extradition pour terrorisme de 3 rebelles tchadiens du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, arrêtés à la mi-octobre au Niger dans la région d'Agadez. Le président de ce mouvement rebelle, Mahamat Hassan Boulmaye, et son porte-parole, Hahamat Yacoub Adan, seraient aux arrêts, mais Niamey n'a pas confirmé ces informations. À N'Djamena, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme prévient qu'au Tchad, monsieur Boulmaye n'aura pas de procès équitable. En Centrafrique, au moins 26 personnes ont été tuées au cours d'un affrontement à Pombolo, situé dans le sud-est du pays, selon le commandant de la MINUSCA. Le gouvernement a fermement condamné ces actes de barbarie. Des casques bleus sont arrivés à Pombolo, situé entre les villes d'Alidao et Bangassou. La région est le théâtre depuis mai dernier de violences entre groupes anti-Balaka et le groupe armé Peul UPC, issu de l'ex-Séléka. Au Kenya, l'opposition demande à ses partisans de manifester massivement le jour du vote jeudi prochain, faisant craindre de nouveaux affrontements avec la police. Cet appel intervient alors que le directeur exécutif de la commission électorale a annoncé aujourd'hui qu'il prenait 3 semaines de congé. Les précisions de Jacques Aristide.
Ezra Chiloba, dont l'opposition réclame le limogeage avant la présidentielle du 26 octobre, affirme que c'est la première fois qu'il prend un congé depuis la naissance de son fils qui, selon lui, aura 2 ans dans 2 semaines. Toutefois, sa mise en congé a été annoncée après la rencontre hier entre le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, et le chef de file de l'opposition. À l'issue de ce tête-à-tête, Raila Odinga a déclaré qu'il pourrait revenir sur son boycott, moyennant de sérieuses réformes. Il veut notamment que les responsables de la commission qui ont validé les résultats du 8 août soient destitués et poursuivis. Le président Uhuru Kenyatta, que Wafula Chebukati souhaitait également rencontrer, n'a pas répondu à son invitation. La Cour suprême a invalidé la réélection de Kenyatta en raison d'irrégularités. L'opposition manifeste sans relâche depuis le 8 août pour réclamer des garanties sur la crédibilité du nouveau scrutin. D'après la police kényane, 4 personnes sont mortes des suites de l'intervention des forces de l'ordre au cours des 2 dernières semaines. Amnesty International et Human Rights Watch affirment que le bilan des violences sur l'ensemble du Kenya s'élève à 45 morts.
Une coalition d'organisations congolaises de défense des droits de l'homme a lancé à Brazzaville une campagne en faveur de la libération des prisonniers politiques. Chaque vendredi, pendant 5 mois, une photo d'un prisonnier sera affichée sur la place publique. Une pétition sera remise au gouvernement en mars prochain. Parmi la centaine de prisonniers politiques congolais figurent 2 anciens candidats à la présidence, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, officiellement poursuivis pour atteinte à la sécurité, à la sûreté intérieure de l'État.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Aux États-Unis, le Congrès demande des explications au Pentagone sur les détails de l'attaque du 4 octobre qui a coûté la vie à 4 soldats américains. Ils sont tombés dans une embuscade à Tongo Tongo, village nigérien près de la frontière avec le Mali. Bagassi Koura, vous avez de nouvelles informations sur ce qui a bien pu se passer ce jour-là.
Une 30aine de soldats antiterroristes, en majorité des Nigériens et 8 éléments des forces spéciales américaines, se rendent en pick-up dans le village de Tongo Tongo. Selon un élu local joint par VOA Afrique, ils sont venus par le nord à la traque d'un complice d'Abu Sahraoui, un ancien du Moudjahou qui dit avoir rallié le groupe État islamique au Grand Sahara. Les soldats ont interrogé des villageois qui ont fait traîner les discussions. Dans la soirée, un semblant d'attaque les attire dans un guet-apens hors du village. Une 30aine d'assaillants, véhicules et motos munis de Kalachnikov et d'armes lourdes ont ouvert le feu. C'est la débandade. Plusieurs soldats sont tués sur le coup. L'aviation française est intervenue pour évacuer les soldats américains et nigériens. Depuis, Moukaïla Alassane, chef du village de Tongo Tongo, a été arrêté. Il n'y a aucune information sur son lieu de détention.
Les États-Unis ont mis en garde leurs ressortissants contre les risques de terrorisme au Soudan, ce qui a immédiatement provoqué la colère de Khartoum. L'avertissement du département d'État américain intervient quelques jours après la levée des sanctions contre le Soudan, sanctions vieilles de 20 ans pour les efforts déployés par ce pays dans la lutte antiterroriste. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a salué la victoire décisive à Raqqa de la force soutenue par une coalition internationale. Monsieur Tillerson a toutefois averti que la guerre contre l'État islamique n'est pas terminée. Attentat suicide dans une mosquée à Kaboul en Afghanistan. Au moins 32 personnes ont été tuées et 41 autres blessées, selon le porte-parole de la police de Kaboul, Abdur Bashir Mujahid. Un kamikaze a ouvert le feu à l'heure de la prière avant de se faire exploser. Et puis, direction l'Europe à présent, 6 hommes, parmi lesquels le beau-frère de Mohamed Merah, ont été condamnés à Paris à des peines allant de 2 ans ferme à 15 ans de prison pour être partis en Syrie en 2014. Ces revenants, comme on les appelle, nient avoir combattu pour le compte de l'organisation État islamique en Syrie. Crise politique en Catalogne. Depuis 3 semaines, près de 1200 entreprises ont lancé la procédure pour transférer leur siège hors de la région. C'est le dernier décompte du registre du commerce espagnol qui nous l'apprend. 20 personnes soupçonnées de trafic d'êtres humains, d'enfants et de migrants ont été arrêtées lors de 2 opérations simultanées des forces de l'ordre en Europe, a annoncé Europol. Lors de cette opération menée conjointement dans 19 pays européens, 115 suspects ont été identifiés et 1106 personnes ont été retrouvées en situation potentielle d'exploitation, dont 34 mineurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Blanche Sanou.
Blanche Sanou avec vous pour la Minute Éco. En Mauritanie, le gouvernement a accordé 8 permis de recherche minière. 5 de ces permis portent sur l'exploration des sables noirs qui sont répartis entre 3 sociétés et les 3 autres pour l'exploration du fer accordé à 2 autres entreprises. L'institution financière de développement IFD a annoncé un financement de plus de 2000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce groupe anglais envisage d'élargir ses investissements au cours des 5 prochaines années pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises africaines. Le projet cible notamment le secteur des infrastructures, les institutions financières, de l'agroalimentaire, la construction, la santé et l'éducation. Le Conseil ghanéen du cacao négocie un prêt de 500 millions de dollars auprès de la Banque chinoise d'export-import Exim Bank Chine. Cet argent devra servir à financer plusieurs projets, notamment la construction d'entrepôts de stockage et l'expansion des usines de transformation du cacao. Il est prévu également la construction de voies ferrées et de routes pour faciliter le transport dans les zones de production et la mise en œuvre de projets d'irrigation pour améliorer les rendements.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors, bien sûr du foot, avec la demi-finale retour de la Ligue africaine des champions entre le Wydad de Casablanca et l'USM Alger. Une demi-finale qui s'annonce indécise, Yacouba.
Effectivement, léger avantage tout de même pour les Casablancais qui auront le soutien inconditionnel d'un public survolté et optimiste après le nul blanc au match aller. Et déjà, les 44 000 billets mis en vente pour ce match ont été entièrement écoulés. L'ambiance au complexe Mohamed V promet d'être électrique ce samedi. Le match se jouera à guichet fermé, conformément aux lois de la CAF.
Justement, le vainqueur de ce choc attendra dimanche pour connaître son adversaire de la finale.
Tout à fait, et ce sera Al Ahly d'Égypte ou l'Étoile sportive du Sahel. Les deux formations se rencontrent à Alexandrie en Égypte donc. L'Étoile du Sahel a remporté une victoire à minima chez elle devant Al Ahly 2-1 au match aller. Le club tunisien a concédé un but qui pourrait valoir de l'or aux champions égyptiens. Mais attention, pour l'anecdote, en finale de l'édition 2007, les deux équipes avaient fait match nul à Sousse à l'aller. Les Tunisiens se sont ensuite imposés 3-1 au Caire pour s'offrir leur dernier trophée dans la compétition.
La Coupe des Confédérations livre aussi le verdict de ses demi-finales ce week-end.
Et oui, le FUS de Rabat tentera ce samedi de se reprendre à domicile après la défaite 1-0 au match aller face au TP Mazembe à Lubumbashi. Dimanche, les Tunisiens du club africain recevront Supersport d'Afrique du Sud pour essayer de renforcer leur léger avantage obtenu au match aller à Pretoria 1-1.
Jean-Michel Seri, out contre le Maroc pour la dernière journée des éliminatoires du mondial?
Oui, le milieu de terrain ivoirien de Nice est blessé et doit être absent au minimum 3 semaines. C'est ce qu'a affirmé son entraîneur en club, Lucien Fabre. L'éléphant est touché aux ischio-jambiers et avait déjà déclaré forfait pour le match contre le Mali lors de la 5e journée des éliminatoires.
Et le tacle attendu de Joseph Blatter, ce ne sera pas sur le terrain, mais plutôt dans un livre qu'il prépare.
Et oui, le président déchu de la FIFA promet un livre salé, dit-il, sur les coulisses de la FIFA avant le mondial 2018. Sepp Blatter a promis d'être présent en Russie pour le mondial sur invitation de son ami Vladimir Poutine.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le Congrès américain demande des explications au Pentagone sur les détails de l'attaque du 4 octobre qui a coûté la vie à 4 soldats américains et 4 soldats nigériens. Ils sont tombés dans une embuscade à Tongo Tongo, village près de la frontière avec le Mali. Sur ce qui s'est passé, Idriss Fall a joint Almou Hassan, maire de la commune de Tondi Kiwindi, dont dépend le village de Tongo Tongo au Niger.
La mission qui a fait l'objet de l'attaque à Tongo Tongo a quitté dans la soirée de la veille pour pointer vers le nord. Ils doivent avoir passé la nuit un peu au nord-ouest de Tongo Tongo. Maintenant, ils ont quitté là où ils ont passé là pour descendre et ils sont venus à Tongo Tongo. Les Africains les ont poursuivis par leur chemin d'arrivée pour les retrouver juste après vouloir être prêts à quitter Tongo Tongo. Ils les ont rattrapés là-bas pour les attaquer.
Et comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de victimes civiles à l'intérieur de Tongo Tongo?
Ça, tout le monde se demandait comment ça s'est passé, si quelque part il n'y a pas de complicité des gens du village. Tout le monde se posait la question que ce n'est pas aussi facile que ça.
Ils n'étaient pas tellement armés, accompagnés de soldats nigériens. Apparemment, ils menaient une enquête sur un éventuel complice d'Abu Sahrawi.
Ils ne sont pas bien armés. Et nous, on s'est dit que dès qu'ils ont, ils traversent les villages même pour aller au nord, les enfants, les bandits, les terroristes n'ont jamais manqué de complices dans la population locale à leur niveau de s'organiser pour les attaquer.
Les soldats américains, les soldats français, ils ont des drones au Niger.
C'est ça même le problème. Nous autres, c'est ce qui nous a beaucoup marqué, comment à leur niveau, avec tout ce qui est comme dispositif là, il n'y a pas eu vraiment de renseignements forts pour éviter. C'est ce qui est arrivé là.
D'autant qu'il y a un quatrième soldat américain dont on a retrouvé le corps que 48 heures après. Et ça signifie qu'il a été abandonné ou bien il avait été enlevé?
En tout cas, au début, ils nous ont notifié les trois, plus quatre de nos forces de l'ordre, les forces nigériennes. Mais c'est après 48 heures après, comme vous le disiez, qu'on nous a notifié qu'il y a un quatrième corps américain qui est retrouvé quelque part dans le terrain de combat. On n'est pas tellement renseigné pour savoir comment ça s'est passé. Malheureusement, les affaires militaires, bon, ils n'impliquent pas en tant qu'autorité locale pour nous expliquer comment ils ont fait leur mission, qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Nous, on n'a reçu aucun détail sur la question. Seulement, on nous a dit qu'il y a un quatrième qui a été retrouvé après. On a pris des mesures pour empêcher la circulation des motos de nuit comme des jours dans toute la commune de Tondi Kiwindi. Les gens sont en train de souffrir de ça. Et il y a toujours ces présences de motos qui font des victimes de temps en temps.
Almou Hassan, maire de la commune de Tondi Kiwindi, dont dépend le village de Tongo Tongo au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
13 députés centrafricains sont en mission aux États-Unis. Un projet pilote entre l'ambassade des États-Unis en République centrafricaine et l'Assemblée nationale centrafricaine. C'est la première fois que les parlementaires centrafricains viennent parler de la situation de leur pays à Washington. Le point avec Ekia Badou.
13 députés ont été reçus jeudi au Congrès et espèrent recevoir un appui pour la restauration de la paix et de la cohésion sociale en Centrafrique. Ils ont également rédigé un plaidoyer, le parlementaire Anselme Bindala Kundro, chargé de mission.
On a déposé un plaidoyer qui renferme un certain nombre de points clés. Ces points clés, ce sont des informations qui nous sont parvenues de la population civile. Nous sommes des députés, comme vous le savez, nous vivons dans la communauté.
Elle demande que les auteurs de crimes et exactions soient jugés, que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne mandat à la MINUSCA d'agir et surtout la levée de l'embargo pour aider à bâtir une armée nationale. Une mesure essentielle selon Michel Kingo, député de la circonscription de Gongo.
C'est ce que toute la population a dit, toutes les entités ont dit, mais les autodéfenses ont dit, si un officier FACA pose les pieds à Bangassou, ils vont arrêter la crise. Nous sommes venus, nous avons transmis tout cela à qui de droit. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien eu. Et c'est comme ça que la crise perdure.
Sur 16 préfectures, le gouvernement ne contrôle que deux d'entre elles. Plus de 80% du territoire sont entre les mains de groupes armés. À Bangui, la capitale, règne une accalmie relative. Boulou Bernadette, députée du 3e arrondissement.
Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas seulement la sensibilisation, que les gens prennent conscience, parce que diviser la ville comme ça, et puis restreindre aussi la liberté des autres, il y a des gens qui ont pris conscience. Mais de temps en temps, on sent quand même que c'est comme un volcan qui n'a pas encore explosé.
La crise a divisé les Centrafricains. Halima Aziza Soumaine, députée de la circonscription de Ndélé dans le nord du pays.
La République centrafricaine, dans son histoire, avant l'indépendance, les chrétiens et les musulmans sont ensemble. Mais aujourd'hui, tout ce qui s'est arrivé à la République centrafricaine, on va chercher le vivre ensemble et la cohésion sociale parce que la délégation parlementaire a réuni les chrétiens et les musulmans dont je fais membre de cette délégation en tant qu'une femme musulmane.
Mardi prochain, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, sera à Bangui, sa première visite dans ce pays en crise.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le Burundi fait face à une pénurie de carburant. Et ce n'est pas la première fois que les automobilistes et autres usagers sont confrontés à ce problème qui enfonce le pays davantage dans l'instabilité économique. Un reportage de Moses Ivarimana, rendu par Abdourahmane Dia.
Les longues files et des voitures garées près des stations d'essence, ce décor est devenu familier à Bujumbura. Les stations d'essence ont du mal à satisfaire la demande. Les chauffeurs de bus et leurs passagers font la queue pendant des heures pour se procurer du gasoil. Les entrepreneurs et autres acteurs du secteur informel subissent aussi les effets de cette pénurie. Une vendeuse de légumes dans un marché de Bujumbura.
Tous les prix sont en hausse sur le marché. Je n'ai aucune idée sur ce qui va se passer, car il y a une baisse de la demande et les vendeurs ne gagnent presque rien.
Cette femme, qui ne souhaite pas être identifiée, affirme que la pauvreté est déjà très aiguë dans le pays et que si le gouvernement n'est pas stable financièrement, cela va affecter leurs affaires. Daniel Pitabankana est en charge du carburant au ministère de l'Énergie.
Ce qui s'est passé, qui a malheureusement perturbé l'approvisionnement des stations-service de la mairie de Bujumbura, est lié en grande partie à l'instauration d'un nouveau système de gestion des opérations douanières selon les procédures du territoire douanier unique. Ces procédures exigent que tous les documents de transfert des marchandises qui doivent quitter le port d'arrivée vers tout pays de l'EAC soient préalablement recherchés avant la sortie de ces marchandises. Donc, ces documents sont payés et délivré ici au Burundi pour ensuite être acheminé au service de douane de Tanzania Revenue Authority qui délivre à son tour le document de transfert de genre T1 qui a été délivré auparavant par les services de douane burundais à Kobero. Nous avons remarqué le manque de maîtrise de ce nouvel outil du territoire douanier unique par certains de nos importateurs. Le transfert des documents exigés de Bujumbura vers Dar es Salaam est en partie le manque d'habileté de certains de nos déclarants ont été à la base du retard de livraison des produits qui étaient attendus au cours du week-end passé. En ce moment même où je vous parle, des camions qui étaient chargés de produits depuis mardi de la semaine dernière viennent de quitter Dar es Salaam ce matin vers Bujumbura.
Sans oublier que l'Union européenne a suspendu son aide au Burundi depuis 2 ans. Cette aide constituait la moitié du budget. Faustin Ndikumana est membre de l'ONG de lutte contre la corruption PARSEM.
Donc ce manque de devises alors, avec lié au gel de la coopération, parce que la grande partie des devises pour le Burundi, c'était les devises provenant des appuis budgétaires, des appuis financiers des partenaires. Dès qu'il y a ce chemin de ces appuis, c'est un problème. Donc les importateurs éprouvent des difficultés pour payer les fournisseurs étrangers.
Selon M. Ndikumana, ces pénuries répétées de carburant peuvent aussi augmenter l'inflation qui est présentement à 13%. Et si on y ajoute les effets de l'endettement, le pays pourrait vite basculer dans la récession.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Afrique, aujourd'hui, la pénétration de la technologie mobile se fait à une vitesse vertigineuse en dépit des problèmes infrastructurels. Les chercheurs estiment qu'en 2020, il y aura près d'un milliard de téléphones mobiles en Afrique. Mais la technologie est-elle en train de faciliter seulement la communication ou va-t-elle transformer les vies et les économies sur le continent ? Écoutons le reportage de Sam Okocha au Nigeria, traduit par Chérubin Dorsil.
Seulement 40% des Africains ont un approvisionnement fiable en énergie et seulement 20% des personnes vivant sur le continent ont accès à Internet. Mais l'avenir semble prometteur alors que les grandes entreprises technologiques mondiales comme Google, Facebook et Microsoft cherchent à s'installer sur le continent où la technologie n'a pas encore atteint son plein potentiel. Pour être à la page, les start-up africaines et les entreprises de télécommunications établies créent des systèmes innovants qui garantissent de changer la façon dont les Africains vivent, travaillent et voyagent. Chola Akinlade, cofondateur et PDG de Paystack Nigeria, la société nigériane chargée des technologies de paiement, partage son expérience. Avant Paystack, dit Chola, si vous vouliez voyager à Aba, de Lagos, vous deviez aller à la gare, payer en espèces. Mais maintenant, en utilisant les produits de technologie financière comme Paystack, les gens téléchargent leur application, réservent un billet, choisissent un siège, font leur paiement, gardent leur billet jusqu'au jour de leur voyage, et voilà. Nous avons vu cela transformer de nombreuses entreprises. Celles qui faisaient peut-être auparavant 1 million de naira par jour font maintenant 3 fois plus par jour. Et c'est juste en raison de la puissance de la technologie. La technologie n'est pas en train seulement d'accélérer la croissance à travers le continent, mais elle change aussi la façon dont les entreprises traditionnelles font leurs affaires. Robert Omutunde est responsable de la recherche en investissement chez Afrinvest Securities. Nous avons vu beaucoup de banques gagner des revenus supplémentaires de leurs activités de base en déployant des technologies dans leurs affaires. L'avenir est prometteur et un certain nombre de produits innovants entrent sur le marché. Nous commençons à perdre de vue le nombre de start-up financières au Nigeria en ce moment. Je peux vous dire qu'il y a plus de 20 d'entre elles qui se trouvent sur le marché et lancent leurs projets dans différents domaines d'épargne ou de prêt.
Or lending, as the case may be.
La croissance rapide du secteur de la technologie en Afrique est principalement due à l'expansion de la technologie mobile. De nouveau, Chola Akinlade de Paystack Nigeria. Si je dois attendre pour vendre à des personnes qui sont devant moi, je ne peux pas accroître mon business ou le mesurer. Mais le jour où je peux vendre à des gens que je ne vois pas, le jour où je peux vendre pendant que je dors, le jour où je peux vendre à des gens partout dans le monde, c'est à ce moment-là que je commencerai à développer mon entreprise. Le succès extraordinaire de la technologie mobile en Afrique a été un choc pour beaucoup. En l'an 2000, près d'1% des foyers d'Afrique subsaharienne étaient connectés à des lignes fixes. En 2015, le continent comptait plus de 557 millions d'abonnés mobiles uniques, soit 46% de la population du continent, faisant de l'Afrique le 2e marché du mobile dans le monde.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Sidrak Franklin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, VOA Afrique. Et notre page Facebook, bien sûr. Merci encore de votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako
sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.